Les matins de France Culture.
La revue de presse internationale, Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour.
Et ce matin, la facture diplomatique.
Oui, ce devait être un déjeuner amical, Emmanuel Macron d'un côté et Benjamin Netanyahou de l'autre. Ces derniers mois, les deux hommes n'avaient-ils pas multiplié les gestes de sympathie l'un envers l'autre? Sauf que la décision de Donald Trump la semaine dernière de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël a changé la donne. Avant même de s'envoler pour Paris, première étape de sa tournée européenne, Benjamin Netanyahou avait prévenu dans les colonnes du Jérusalem Post: j'irai leur dire comment Israël voit les choses, sans peur et la tête haute. Et c'est ainsi qu'hier, la rencontre entre les deux hommes a finalement bien vite tourné au face-à-face, chacun campant largement sur ses positions. Quand Emmanuel Macron a dit une nouvelle fois regretter l'annonce de Donald Trump, la qualifiant de dangereuse pour la paix, Benjamin Netanyahou lui a jugé que la décision du président américain était historique. L'un et l'autre ont ferraillé durement, constate pour sa part The Washington Post, autour de ce qui s'apparente, dit-il, à un véritable sac de nœuds. Et puis cet échange entre les deux alliés a surtout ouvert la voie à ce qui pourrait être une réunion encore plus tendue aujourd'hui entre Benjamin Netanyahou et les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne à Bruxelles. La question de Jérusalem, mais aussi le processus de paix moribond, devrait bien sûr figurer en bonne place à l'ordre du jour, précise toujours le quotidien américain, qui semble craindre à présent un fossé naissant entre Israël et les États-Unis d'un côté, l'Europe et les Palestiniens de l'autre.
Et les États-Unis n'ont pas fini de mettre le feu aux poudres, s'agissant cette fois, Thomas, de l'OMC.
Oui, l'Organisation mondiale du commerce est-elle en danger de mort? Depuis hier, les 164 membres de l'OMC sont réunis à Buenos Aires, et cette fois-ci, ce n'est pas tant le blocage du quasi-défunt cycle de Doha qui inquiète. Non, cette année, prévient l'éditorialiste du Temps, les États-Unis menacent tout simplement de porter le coup de grâce à une organisation créée il y a 22 ans à Genève. Dans sa logique mercantiliste et nationaliste d'America First, l'administration de Donald Trump joue aujourd'hui la tactique du pourrissement pour saper ce qui a permis jusqu'ici d'éviter des guerres commerciales dévastatrices. Washington est en effet en train de rendre inopérant l'organe d'appel de l'organisation. Cette cour, composée de 7 juges, souvent décrite comme le bijou de l'OMC, fondamentale pour sa crédibilité puisque c'est à travers elle que chacun des membres a la possibilité de se plaindre contre des pratiques commerciales contraires aux principes de l'OMC. Depuis ce matin, cette cour n'a plus que 4 juges sur 7 et leur nombre pourrait même chuter à 3 l'automne prochain en raison des blocages américains. Alors officiellement, le mécanisme de règlement des différends ne fera pas partie des discussions en Argentine, mais il en sera clairement question en coulisses ou dans les rencontres bilatérales. La commissaire européenne au commerce a d'ailleurs elle-même déjà mis en garde contre un retour au Far West. Alors, l'attitude de la Maison-Blanche semble aujourd'hui surprenante à plus d'un titre. Tout d'abord parce que ce sont eux qui ont poussé à la création d'un tel mécanisme. Et les États-Unis sont probablement le pays qui s'en sort le mieux puisqu'ils ont gagné près de 78% de leurs plaintes. Sauf qu'un facteur fondamental a changé sur la scène du commerce international. Si en 1995, les architectes de l'OMC, dont les États-Unis représentaient 70% du commerce mondial, aujourd'hui, ils n'en représentent plus qu'un tiers. Et puis culturellement, les Américains voient cet organe d'appel de façon très différente des Européens. Si ces derniers sont habitués à une cour de justice supranationale, au même titre par exemple que la cour de justice de l'Union Européenne, pour les Américains, en revanche, les juges de l'organe d'appel devraient se contenter d'être des arbitres facilitateurs. Et puis, la deuxième raison pour laquelle l'attitude de Washington étonne, c'est qu'en paralysant le mécanisme de règlement des différends de l'OMC, le président Donald Trump dessert non seulement la fragile mécanique du commerce mondial, mais aussi l'économie de son pays. C'est là donc toute l'ironie de l'histoire, mais semer le chaos dans un monde aussi fragile et interdépendant, conclut l'article, c'est une manière pour Donald Trump de prendre le monde entier en otage dans le seul but de séduire sa base électorale.
Enfin, ultime facture diplomatique ce matin, Thomas, le Brexit.
Oui, selon des extraits de sa déclaration diffusée par le 10 Downing Street, la première ministre britannique, qui doit s'exprimer aujourd'hui devant le Parlement, saluera un nouveau sentiment d'optimisme dans les négociations engagées avec l'UE sur le Brexit. Vendredi dernier, Theresa May et le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, ont en effet annoncé un accord sur les modalités du divorce. Un compromis va permettre aux dirigeants des 27 qui se réunissent jeudi et vendredi à Bruxelles de lancer officiellement la phase 2 des négociations. Mais la presse britannique, elle, ne semble pas dupe de la situation, à l'instar du journal de gauche The Independent, lequel écrit « 18 mois après le vote du Brexit, nous avons finalement bidouillé la frontière irlandaise, les droits des citoyens de l'UE et le coût du divorce. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à nous mettre d'accord accord sur, et s'ensuit une liste interminable, ou dit autrement, conclut le journal, Londres n'est pas sorti de l'auberge. Hier déjà, le ministre britannique chargé du Brexit a déclaré sur la BBC que si le Royaume-Uni ne parvenait pas à conclure un accord commercial avec Bruxelles, il ne paiera pas sa facture de divorce de 40 à 45 milliards à l'Union européenne. Bref, même si cela semble inélégant au moment de célébrer la fin des premières négociations, il est à prévoir que le soulagement de Londres et Bruxelles sera de courte durée, renchérit The Daily Telegraph. Enfin, décidément, le mauvais temps semble s'abattre sur le Royaume-Uni au propre comme au figuré, en dépit des photos à la une du Guardian ou The Independent montrant des enfants visiblement heureux de profiter des joies de la neige. Toute la presse revient ce matin sur la journée de chaos, écrit le journal Metro, qui a paralysé hier le pays où, quand il neige, se désole le journal et que personne, dit-il, ne peut faire face.
Merci beaucoup, Thomas Cluzel.